Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Nous espérons que vous êtes bien arrivés ici. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde, que vous veniez pour la première fois, souvent ou depuis toujours. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui nous regardent en streaming et qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Soyez les bienvenus, vous qui êtes remplis de joie, ou vous qui avez peut-être de gros soucis en ce moment. Soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, il va être question des mots qu'on dit et des paroles qu'on entend. Et je pense que nous avons tous vécu cela. On a tous reçu des paroles qui nous ont blessés, parfois très profondément, comme nous avons aussi reçu des paroles qui nous ont portés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, des mois ou même des années. Et ces paroles, donc là je parle que des paroles qui encouragent, hein, pas des autres, peuvent venir d'êtres humains tout comme de Dieu. Et de plus en plus, je me demande quelle personne j'aimerais être. Est-ce que j'aimerais être quelqu'un qui construit et qui aide les autres à se construire, ou quelqu'un qui peut-être, sans m'en rendre compte tout de suite, détruit? Et il me semble que plus je me rapproche de Dieu et de sa lumière, plus j'ai envie d'encourager les autres et de leur transmettre des choses qui leur font du bien. Plus je suis proche de Dieu, plus sa bienveillance peut couler à travers moi, me semble-t-il.
Et ce matin, c'est Myriam Mathey qui nous apportera le message. Bienvenue à toi, Myriam. Alors que Philippe, lui, nous invitons à prier pour lui parce qu'il est en déplacement un petit peu plus loin. Pas tout à fait des vacances, mais quand même des paysans. Myriam, elle est pasteur aux côtés de David Rosset et Raphaël Bossel à l'église de la Fraternelle à Nyon. C'est une des autres églises de la Fré, donc notre famille d'églises de Suisse romande. Donc merci d'être là parmi nous. Et je vous invite à prier et nous remettre entre les mains de notre Dieu, lui qui nous rassemble et qui nous accompagne. Seigneur, tu nous as permis de nous rassembler ici ce matin, tous ensemble. Tu nous as permis de nous connecter peut-être aussi pour pouvoir participer en ligne. Merci parce que tu nous fais grâce, parce que tu veilles sur nous et que tu nous accompagnes. Tu nous accueilles tels que nous sommes et nous voulons nous placer devant toi avec nos joies, nos soucis, nos douleurs physiques ou nos douleurs dans nos cœurs. Que tu puisses nous décharger de nos soucis, nous relever, nous guérir, nous rétablir, que tu nous permettes d'avancer à ta suite. Et tous ensemble, nous voulons bénir ton nom et te louer pour ce que tu fais dans nos vies, pour tes promesses à venir, mais aussi pour qui tu es, simplement toi qui es Dieu, tout autre, créateur, infini, toi qui es venu sur terre pour nous offrir ta vie. Alors nous nous remettons entre tes mains et t'apportons ce temps, nous t'apportons nos êtres entiers pour te rendre ce culte. Amen. Alors, je laisse la place à l'équipe de louanges. Merci de ce temps.
Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de pouvoir louer ensemble le Seigneur. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque nous sommes en souci pour ceux que nous aimons, pour la suite de notre journée, nous pouvons avancer avec confiance. Souvenons-nous que l'amour et la fidélité de Dieu demeurent inébranlables. Dans le premier chant, nous allons louer le nom de l'Éternel, célébrer sa bonté. Quelle joie de savoir qu'il vit en nous et qu'il est venu pour nous sauver. Dans le deuxième, nous allons le louer pour qui il est, lui le Créateur de toutes choses. Il est infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Et pour conclure, une déclaration de foi. Jésus, je te suivrai. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme de s'écrire. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Go.
songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta beauté. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où sa présence abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Servir malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans la garde. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai.
Dans un instant, on va vous laisser continuer le culte de votre côté. Merci aux moniteurs du jour, Kevin, Chantal. Merci à toute l'équipe qui les encadre aussi dimanche après dimanche et qui proposera même, on en reparlera après, un culte spécial pour eux la semaine prochaine. Merci pour tout le travail qui est fait. C'est précieux. Et on va prier. Merci Seigneur pour chacun de ces enfants. Tu les aimes très fort. Ils sont précieux pour toi et tu te réjouis de passer du temps avec eux, jour après jour. Tu te réjouis en particulier de passer ce temps avec eux maintenant dans leur groupe, aux potes. Qu'ils puissent continuer d'apprendre à te connaître, qu'ils puissent se rapprocher de toi. Et merci parce que tu veilles sur eux et que tu as des projets super chouettes pour chacun d'eux. Nous te les remettons particulièrement entre tes mains et que tu nous gardes également, nous ici, dans la suite de ce culte, que tu ouvres nos cœurs, nos oreilles, que tu travailles nos pensées et que tu nous permettes de nous rapprocher de toi. Merci pour Myriam et ce qu'elle nous partagera, que tu la renouvelles également. Amen. Alors les potes, je vous laisse descendre et Myriam, je laisse la place ici.
Bonjour, bonjour à chacun, à chacune. Ça fait plaisir d'être là ce matin avec vous. Je crois que j'étais venue, j'étais déjà invitée une fois, je ne me rappelle plus, ça fait un peu plus d'une année, deux ans, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Alors, j'avais vraiment à cœur de vous partager ce thème de semer des paroles. Et c'est vrai que c'est une grande responsabilité qu'on a. On a un grand pouvoir quelque part dans notre bouche, avec notre langue, de dire des choses. Et c'est vrai que ça peut être des bonnes choses qui encouragent, qui bénissent. Mais parfois, ben, ils sortent aussi de notre bouche des choses que peut-être après, des fois, on se dit, mince, c'est sorti un peu vite. Alors, c'est vrai, il y a quelque chose qu'on fait justement chaque jour, hein, à part manger, dormir, prendre soin de son corps, c'est parler. Et ben ouais, parce que moi, je ne sais pas si vous avez déjà fait une fois sans parler. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait un vœu de silence, une journée sans parler. Moi, je crois que ça ne m'est pas arrivé. Des fois, ça dure des heures. La nuit, généralement, on ne parle pas trop, encore que. Hein, des fois, on peut même parler la nuit. Mais chaque jour, on parle et chaque jour, on dit tellement de choses. Alors, ça commence généralement par peut-être « bonjour, ça va ?» souhaiter voilà, la bienvenue, poser des questions, qu'est-ce qu'on mange à midi ou je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on partage, des petites informations comme ça. Mais on dit beaucoup de choses avec nos mots. Même si on est seul à la maison, ben, généralement on parle, on peut appeler quelqu'un, on peut prier, on peut chanter comme on l'a fait. Donc même si on est seul, ben, on parle. Si on a un animal de compagnie, on a le droit de lui parler. Hein. Ce n'est pas grave. Et puis des fois, on se parle à soi-même. On peut s'encourager aussi. Donc on parle tous les jours. Dieu nous a créés avec cette capacité de parler. On peut mettre juste la suite. Alors voilà, quand on parle, ben, des fois aussi, il y a plein d'émotions. Hein. Quand on voit cette maman avec son enfant, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce regard. On ne parle pas qu'avec nos mots, on parle aussi avec tout notre corps, avec l'intensité de qui on est. Et puis, entre la photo d'un côté et de l'autre, on voit bien que c'est différent. Ça peut être très proche, ça peut être quelque chose de beau, de bon, qu'on reçoit comme un cadeau, comme un sourire. Et c'est fort et c'est chaud. Et autrement, ça peut être aussi le natel dans la main, l'autre main qui dit stop, non, je ne suis pas disponible. Donc parfois, il y en a un qui veut parler, mais l'autre, il ne veut pas écouter. Donc on vit ça aussi au quotidien. Donc parler, ben, ce n'est pas quelque chose de si simple. D'un côté, oui, ça sort tout seul. Mais communiquer, être entendu, recevoir, partager, ben, c'est tout un processus. Des fois, ça se passe plus ou moins bien. Et comme je le disais, ben, Dieu il nous a créés avec cette capacité. Et je me suis dit, mais en cherchant dans la Bible, ben, c'est très tôt, c'est en Genèse 1, verset 3, première parole, Dieu dit. Il parle, Dieu parle. Dès le départ, il parle. Au commencement, Dieu, mais au commencement, Dieu, il parle aussi. Que la lumière paraisse et la lumière parut. Dieu vit que la lumière était une bonne chose. C'est extraordinaire. Dieu parle. Il y a quelque chose qui se passe, donc il crée, et en plus, c'est bon. Ah, ça, c'est l'exemple parfait, hein, que si possible, on peut essayer de suivre. C'est que quand on parle, on dit des bonnes choses. On peut s'inspirer de Dieu. Et lui, quand il parle, il crée. Alors nous, on n'a pas autant cette capacité. Je pense qu'on a un petit bout de ça, mais pas aussi puissant que quand on parle, ça crée la vie tout de suite. Hein. La vie, il faut 9 mois pour la préparer, pour la donner, pour la transmettre. Mais il y a quand même des paroles qui touchent, des paroles qui, comme on l'a vu, comme vous l'avez certainement déjà reçu, qui nous portent, qui nous encouragent, qui nous, quelque part presque, qui nous ressuscitent. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous à Éphésiens 4. C'est qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. Alors, c'est quand même assez exigeant. Hein. Aucune parole mauvaise. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein. Généralement, elle est très exigeante. Seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin, qui sont constructives et qui fassent du bien. Donc 4 choses positives pour pas de paroles mauvaises. Alors j'ai mis aussi en anglais, peut-être pas tout le monde parle en anglais, mais parfois ça aide, moi je trouve, d'aller d'en voir dans une autre langue. Si vous parlez allemand, suisse-allemand, portugais, je sais pas quelle langue vous parlez aussi, bah, des fois je trouve que c'est enrichissant parce que ça donne un petit peu notre compréhension. Et par exemple, paroles mauvaises en anglais, c'est soit traduit corrupting talk, ça veut dire que c'est corrompu, on pourrait dire, ou unwholesome words, quelque chose qui n'est pas complètement entier, qui n'est pas complet, qui n'est pas parfait non plus. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles mauvaises? Une parole mauvaise, en hébreu, c'est sapros. Ça veut dire une parole qui est un peu malade, une parole qui est un peu comme décomposée, putride. En fait, il y a une sorte de processus de mort. C'est comme une parole un peu qui est, on va voir après, cette image d'une pomme pourrie, en fait, une parole qu'on reçoit, mais en fait qui ne nous fait pas du bien, mais plutôt qui développe en nous quelque chose d'assez mauvais. Et Jésus, il a utilisé ça dans Matthieu 7. Gardez-vous des prophètes de mensonges, ils viennent à vous déguisés en petits moutons, qui a l'air tout gentil comme ça, tout doux, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? Ben non. Ou des figues sur des chardons? Non plus. Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Là aussi, c'est de manière très radicale, hein. Quelque part, on est censé, on est appelé à être un bon arbre pour produire du bon fruit. Et il dit finalement, les prophètes, on les reconnaît à quoi? À leurs fruits. Si on passe juste après, on voit ça. Et il y a cette métaphore de l'arbre, justement. L'arbre, c'est un petit peu qui on est, c'est notre être, c'est notre cœur, c'est nos pensées, c'est ce qui fait notre constitution. Et puis après, il y a ben, nos comportements, nos paroles, nos actes, ce qu'on fait. Et là, ben, en fait, c'est les fruits. Alors, ça peut être le fruit, ça peut être une olive, ça peut être une pomme, ça peut être différentes choses. Et un faux prophète, alors, justement, on le reconnaît à ses fruits. Un prophète, c'est quelque chose, normalement, c'est quelqu'un qui donne d'abord, avant de donner une parole de connaissance ou qui donne quelque chose qui va arriver, c'est d'abord une personne qui encourage. La première qualité d'un prophète, c'est d'édifier et d'encourager. Alors, on les reconnaît à leurs fruits, c'est-à-dire... Ben, si c'est une bonne parole, une parole qui encourage, ça veut dire que c'est un bon prophète. Si c'est un prophète qui donne des mauvaises paroles et qu'on voit à la longue que c'est des paroles en fait, qui font du mal, ben, c'est pas vraiment un bon prophète. Donc c'est aussi une manière aussi qu'on a de peut-être reconnaître. Si on reçoit une parole de quelqu'un, on peut aussi se dire, mais est-ce que cette parole, elle m'encourage, elle me fait du bien? Et on a cette responsabilité, si on reçoit une parole, ben, de discerner. Est-ce que je la prends ou pas? Quelle que soit la personne qui nous donne cette parole, on peut aussi se dire, ben, est-ce qu'elle est pour moi ou pas? Jésus, il utilise encore une fois ce terme de patros, de mauvaise parole, dans Matthieu 12, je trouvais que c'était aussi intéressant, il reprend cette image de l'arbre et du bon fruit. Pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Si vous avez un arbre malade, vous aurez des mauvais fruits. Car on connaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Et là, il devient assez dur. Espèce de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Ça, c'est des paroles qu'on n'aime pas trop entendre, hein, qui sont pourtant dans la Bible. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Celui qui est bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, chacun aura à rendre compte de toute parole inutile, en anglais c'est careless, sans soin, qu'il aura prononcé, car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. C'est très très fort, hein. On se dit, ben voilà, on dit une parole. Moi, mes enfants, ils en disent plein entre eux, j'ai deux enfants. Eh ben, des fois, c'est vrai que ce n'est pas que des paroles de bénédiction entre eux, hein, les enfants, hein, quand ils sont énervés, quand ils se fâchent. Bon, après, pas que les enfants, hein, nous aussi. Hein, moi, je reconnais que mes paroles, ce n'est pas que des bénédictions quand je suis énervée avec mes enfants. Et ce n'est pas facile, justement, de se retenir quand on est fâché, quand on est énervé. Mais pourtant, Dieu nous dit, c'est de ce qui sort de nous, de notre cœur, de nos pensées, de nos tripes, quelque part, de notre être intérieur, de notre âme. Ça va déborder et c'est ça qui va sortir aussi de nous. Et si ce qui est en nous, ben c'est bon, alors on va donner des bonnes paroles. Si au fond de nous, ce qu'il y a en nous, eh ben c'est moins bon, c'est pas beau, eh ben on va donner plus souvent des mauvaises paroles. Donc ça nous fait aussi réfléchir. Et en même temps, il y a aussi cet avertissement. Je vais un peu plus loin. Jésus nous avertit. Au jour du jugement, ben, il va revenir aussi sur nos paroles. Souvent, on parle du péché, de nos actes, de ce qu'on a fait, obéi, pas obéi. Mais tout d'un coup, là, il parle aussi même de nos paroles. Des paroles inutiles. Cette semaine, en préparant ça, je me suis dit, ah Seigneur, peut-être des fois j'en dis beaucoup des paroles inutiles. Et des fois, je commençais à réfléchir, à prier dans ma tête, Seigneur, est-ce que cette parole, je la dis? Ah ben, peut-être pas. Parce que finalement, cette parole, elle n'a pas d'utilité. Ça ne va pas forcément construire la personne. Moi, j'ai deux engagements. Je suis pasteur, mais je travaille aussi comme psychologue, psychothérapeute. Et c'est vrai que j'encourage ou j'essaye d'encourager les gens et de donner des bonnes paroles, mais ça m'arrive aussi de ne pas donner toujours des bonnes paroles autour de moi, dans mon quotidien. Et c'est vrai de se dire, mais est-ce que moi, je donne des paroles qui sont avec beaucoup de soin? Est-ce que la parole que je vais donner aujourd'hui ou que j'ai déjà donnée ce matin, c'est du soin à l'autre? Ben, c'est assez exigeant, hein, de se dire, à chaque fois que je parle, c'est pour donner une bonne parole. Ben, ce n'est pas facile. Enfin, je ne sais pas vous comment vous faites, mais je trouve que c'est vraiment exigeant, hein. Parce que des fois, peut-être c'est mieux de se taire. Au moins, on a moins de risques de donner une parole même inutile. C'est même pas, je trouve que c'est intéressant, c'est même pas une parole qui fait mal, là. C'est même pas une mauvaise parole. C'est une parole inutile. Combien il y a de paroles inutiles qu'on a dites ? Moi, je sais pas, mais je me suis jamais entendue enregistrer toute ma journée, de toutes les paroles que je dis sur une journée. Je sais pas combien ça fait, mais ça fait quand même beaucoup. Je crois que j'avais lu sur Internet, un adulte, il dit entre 16 000 et 20 000 mots. Les hommes, un peu moins que les femmes. Ça, c'est un petit peu connu, on parle plus que vous. L'essentiel, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Mais en même temps, si on parle plus, on a plus de risques aussi de dire des paroles qui sont peut-être pas forcément édifiantes. Donc c'est vrai que c'est une grande responsabilité de qu'est-ce qu'on fait de nos paroles. Et Jésus, il nous dit, voilà, ce que lui, il a fait, sa bonne nouvelle, c'est qu'il nous rappelle qu'on est tous des pécheurs et que quelque part, on a tous commis, on a tous donné des mauvaises paroles, on a tous fait des choses ou dit des choses qui ont blessé d'autres personnes. Et la bonne nouvelle, heureusement, quand on voit cette croix, c'est de se rappeler, comme on l'a aussi chanté, Jésus, il est mort pour nous sur la croix. Pas seulement pour prendre nos péchés, les actes qu'on a faits, la désobéissance, mais aussi pour toutes ces paroles qui n'ont pas été des bonnes paroles qu'on a données aux autres, des paroles qui ont été comme des pommes pourries et qui ont aussi touché, impacté, mais négativement nos proches. Mais j'aime tellement aussi cette promesse de 1 Jean 1,9 qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Et toutes les paroles qu'on aurait dites qui sont parties trop loin, trop vite, Seigneur Jésus, il est aussi prêt, il est déjà là pour nous les pardonner, il est déjà mort sur la croix pour aussi ces paroles-là. Une fois, j'avais lu, je ne sais pas si des fois on voit sur Internet des petites images comme ça. C'est comme si vous preniez un coussin avec plein de plumes, un vieux coussin, voilà, pas les nouveaux synthétiques, mais un vieux coussin avec plein de plumes. Et si on prend un coussin comme ça, puis dedans, on imagine c'est plein de paroles. Si c'est des bonnes paroles et que tout d'un coup ça s'ouvre, les enfants ils jouent, on joue avec et ça s'en va partout et qu'il y a un peu de vent, ça part. Et si on veut essayer de les récupérer, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'une fois qu'une parole elle est partie, comme une plume comme ça dans le vent, c'est très difficile de revenir derrière et de se dire « Oups, on peut pas courir après nos paroles, de tout ce qu'on a dit. » Donc c'est vrai que c'est très exigeant de se dire « Mais Seigneur, apprends-moi à mettre un filtre, un frein à ma bouche pour que parfois, des fois, ma tête, elle me dise « Oups, stop, je pense à dire ça, je réfléchis encore une fois, comme on dit, je tourne ma langue dans ma bouche, et peut-être qu'il y a des choses que c'est mieux de pas dire. » Mais malgré tout, heureusement, quand c'est parti, quand c'est sorti, quand ça a fait mal, on peut aussi demander pardon à Dieu pour les paroles qu'on a dites, qui ont été blessantes. Et dans Jacques 1 aussi, il parle beaucoup de la langue. C'est aussi très intéressant, ces textes. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et ça, c'est tellement extraordinaire de se dire que la parole de Dieu, elle est plantée en nous, dans notre cœur, et elle nous sauve entièrement. Cette promesse qu'il nous a fait, que lui, il est mort pour nous, que sa parole, cette bonne nouvelle, il est là pour nous aimer, pour nous pardonner. Et dans la Bible, c'est vrai, il y a tellement de promesses qui nous tiennent, qui nous portent, qui nous encouragent, qui nous disent combien on est précieux, qu'on est ses enfants et qu'il nous aime, et que justement, on peut être nourri de sa parole. Et nous aussi, on peut donner des paroles de vie. En Jacques 3, nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Vous voyez, un mort, c'est comme ça. Vous avez déjà vu un mort, j'imagine, la plupart d'entre vous, peut-être certains, ils montent à cheval. C'est tout petit ce morceau, j'ai essayé de voir le poids, j'ai jamais trouvé le poids que ça fait, j'ai vu les dimensions, mais c'est assez petit. Mais un cheval, j'ai regardé, c'est entre 400 et les gros chevaux de trait, 700 kilos. Donc un tout petit objet comme un mort, il est capable de freiner le cheval de plus de 500 kilos, il est capable d'y diriger soit à droite, soit à gauche, soit après de faire accélérer ou freiner. Donc dans notre bouche, peut-être parfois, on devrait aussi demander, Seigneur, donne-moi un mort que moi aussi... Des fois, dans ma tête, je freine aussi mes paroles et que je sois dirigée par toi, Saint-Esprit, et pas juste par ce que des fois j'aimerais dire. Je trouve que c'est intéressant cette illustration qui est dans la parole de Dieu. Une autre illustration, la langue, elle est aussi présentée comme un gouvernail. Dans Jacques, c'est marqué « Voyez encore les navires, Même s'ils sont très très grands certains et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut, ou le skipper. Regardez ce gouvernail. Il est beau, hein, il est magnifique. Hein. J'ai essayé de trouver la plus belle image. Bon, après, maintenant, actuellement, dans les voiliers, ils sont plutôt en métal. Ça, c'est un vieux qui appartient à ce bateau. Un très, très vieux trois-mâts français qui s'appelle le Belém, hein, qui est encore utilisé, qui a été refait. Et ben, il a un tout petit gouvernail, alors que ce bateau, il fait 58 mètres de long et le mât, depuis le niveau de la mer jusqu'en haut, 34 mètres. Donc, un tout petit gouvernail en bois pour déplacer cet énorme bateau qui peut prendre pas mal de personnes à son bord. Donc nous aussi, en fait, c'est cet exemple. Notre langue, elle est tout petite, hein, par rapport à tout notre corps. Et pourtant, eh ben, elle nous déplace et elle déplace aussi des personnes. On peut donner des ordres, on peut encourager, on peut bénir. Et on continue dans Jacques 3. Il dit « De même, la langue est notre, une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Voyez comme un petit feu aussi suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. » Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle embrase tout le corps de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. C'est pas très gai, ça. Hein, ça fait pas très envie. Hein. Quelque part, on n'aurait pas envie de se dire, on va quand même pas couper notre langue pour se dire, on veut pas ce morceau en nous qui apporte aussi tellement un feu violent qui vient de l'enfer avec des paroles tellement dures qui apportent aussi parfois des paroles de mort. Mais de l'autre côté, on en a quand même besoin de notre langue. Hein. On peut pas se dire, on va l'enlever parce qu'on ne veut pas faire du mal ou on va plus parler du tout parce que ce serait quand même aussi dommage. Et il y a cette image justement aussi du feu. Alors on voit un feu dans la forêt, ça peut commencer juste quelques hectares, quelques mètres. Et après, la deuxième image, c'est en Haut-Valais, en Suisse. Donc tout d'un coup, une forêt entière, des hectares entiers, ça part. Donc comment une petite allumette, une cigarette, un feu, ça commence par rien du tout au début. Hein. Ça commence par quelques brindilles, mais après, c'est extrêmement puissant. Et la langue, en fait, finalement, elle a ce pouvoir dans les deux sens. Elle a le pouvoir de détruire énormément, mais heureusement, elle a aussi le pouvoir de donner la vie et de construire et d'apporter des paroles de guérison, des paroles qui relèvent, des paroles qui encouragent, des paroles qui construisent. Donc on a une grande responsabilité. Jacques 3, la suite, qui dit « L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, les oiseaux, les reptiles, les poissons, et de fait, elle les a domptées. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Personne ne peut la dompter. » En fait, on est tous au même niveau, là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « Ah, pas moi, je sais maîtriser ma langue. » Ça, je crois que ça nous rappelle qu'on est humble et qu'en fait, eh ben, on est tous au même niveau. Des fois, ça part plus vite que ce qu'on aimerait. Et c'est quand même la Bible qui le dit. C'est vrai que ce n'est pas facile à entendre. Hein. Des fois, on aimerait plutôt que se dire que nous, on est des gentils chrétiens qui bénissons les autres. Mais en vrai, si pendant une journée ou une semaine, Dieu il entendait toutes les paroles qui sortent dans notre bouche, on n'aurait peut-être pas envie que les autres ils les entendent aussi. Hein. Moi, je suis contente que vous n'êtes pas là chez moi hein, pendant la semaine, des fois, quand je m'énerve. Parce qu'évidemment, moi aussi, je ne sais pas toujours dompter ma langue. Hein. Notre langue, nous l'utilisons pour bénir le Seigneur, notre Père, comme on l'a fait aussi ce matin, comme on a loué Dieu, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance, à son image. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est Jacques qui parle, hein, ça fait déjà plus de 2000 ans qu'il a dit ça, et pourtant c'est tellement, tellement encore actuel aujourd'hui. Nos paroles, elles sortent de notre cœur, et comme on l'a vu alors, cette langue, elle est indomptable, mauvaise, pleine de poison mortel. Mais heureusement, on peut l'utiliser aussi pour bénir, et malheureusement, parfois aussi, on l'utilise pour maudire. Et j'aime bien ce texte de Matthieu là, qu'on a lu tout à l'heure, qui, un peu dans une autre version, qui dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors c'est vrai, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur alors? De quoi est-il abondant mon cœur? Comment nourrir finalement notre cœur, nos pensées? Parce que dans, vous savez certainement, mais le cœur, ce n'est pas le cœur physique qu'on a là, mais le cœur, c'est le centre de la pensée dans la pensée hébraïque. C'est là aussi où il y a nos émotions, nos pensées. Et il y a ce texte de Philippiens 4 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » On peut s'inquiéter, on a des inquiétudes tous les jours, mais la première chose à faire, c'est de les donner à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et là, on voit un peu le filtre que quelque part Dieu aimerait qu'on ait, mais c'est vraiment très exigeant, hein, tout seul on n'y arrive pas. On a besoin du Saint-Esprit pour arriver à se dire, Seigneur, mes inquiétudes déjà, je te les dépose, mes besoins aussi, je te remercie de prendre soin de toutes ces choses, merci de me donner ta paix, renouvelle mes pensées et aide-moi, Seigneur, à penser, à rester focalisé sur des choses qui te louent et qui t'honorent. Et ça, c'est vrai que ben, c'est très exigeant. Ça demande d'être attentif et de demander à Dieu de l'aide au quotidien. Et c'est vrai cette question, de quoi je nourris mes pensées? Moi, j'aime bien aussi regarder les nouvelles, regarder ce qui se passe dans l'actualité, en Suisse, dans le monde, ailleurs. Mais parfois, ben, c'est vrai que ça remplit mes pensées de choses qui sont peut-être un peu des inquiétudes aussi. Alors, il ne faut pas fermer les yeux et se dire « je ne veux rien savoir de ce qui se passe dans le monde ». Mais arriver aussi à prendre un peu de distance puis se dire « Seigneur, ben, je te confie aussi ». Voilà, les souffrances de tel et tel peuple, les difficultés qu'il y a ici, les élections, les tensions dans tel et tel pays. Et Seigneur, ben Seigneur, prends soin aussi de ces choses, de ces personnes, et de ne pas se laisser influencer, et de ne pas nourrir que nos pensées de choses qui peuvent justement, quelque part, pourrir notre intériorité, mais de se dire, mais Seigneur, de quoi je veux nourrir mon cœur, mon âme, mes pensées? C'est la responsabilité de chacun. On peut passer des heures, suivant l'âge qu'on a, dans des jeux vidéo. Peut-être ça soulage, peut-être ça permet de penser à autre chose. On peut regarder des choses qui ne sont pas forcément belles, des choses qui font peur. Ben, c'est la responsabilité de chacun de se dire, mais est-ce que vraiment ça nourrit mon âme? Parce qu'à force de regarder trop des choses, ou d'entendre, ou de voir des choses qui ne sont pas forcément belles, ben, ça va aussi nous impacter. Et c'est aussi pour ça qu'on a aussi tellement besoin de s'arrêter, de se dire, sur ma semaine, combien d'heures j'ai passé à écouter et à entendre des choses qui m'ont nourri? Et de lire la Bible, et combien d'heures j'ai passé à regarder des images, des choses qui ont peut-être été peut-être pas très constructives, voire inutiles. Et de temps en temps, peut-être, il faut aussi être honnête avec soi-même et se dire, ben, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu cette semaine? Et est-ce que la semaine prochaine, peut-être j'aimerais un petit peu changer le taux de choses que je vois ou le temps que je passe à m'édifier, à édifier mes pensées. Vos expériences, ben, on en a tous, hein. Dans ce qu'on dit, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on reçoit, est-ce qu'elles ont été négatives, mitigées, positives? Ben, je crois qu'on est un petit peu tous à la même. On a tous reçu des mauvaises paroles, malheureusement. On en a tous, j'espère pour vous aussi, reçu des bonnes qui vous ont encouragé, béni. Et on a aussi tous donné des bonnes paroles, mais aussi parfois justement des moins bonnes paroles. Donc on est autant quelque part ceux qui recevons du bien et du moins bien que ceux qui donnons. Donc on vit quand même avec les paroles au quotidien des gens autour de nous. Mais en tant que chrétien, je crois qu'on est appelé à inverser quand même sérieusement la tendance et de recevoir des bonnes paroles et d'en donner plus que des mauvaises. Mais évidemment, ce n'est pas toujours évident. Et puis peut-être, je ne sais pas, il y a des fois des paroles qu'on garde depuis tellement longtemps. En thérapie, j'entends des fois des gens qui me disent « ben voilà, j'ai entendu ça de mes parents, j'ai entendu ça de mon prof d'école, j'ai entendu ça de quelqu'un autour de moi ». Malheureusement, c'est des fois aussi, ben évidemment, c'est aussi dans l'église. Et il y a aussi des paroles qui sont un peu comme des pommes pourries, puis c'est important aussi de pouvoir se dire, ben, Seigneur, moi, je veux te l'apporter. Je veux l'apporter à la croix, je veux te la donner. Je veux renoncer à ce que cette parole qui m'a été dite, qui m'a fait mal, ben, elle ait encore du poids et elle ait encore un impact dans ma vie. Et je choisis, Seigneur, de pardonner cette parole, de pardonner à la personne qui m'a donné une parole qui m'a fait du mal. Mais on a aussi cette responsabilité de se prendre le temps de regarder en nous puis de dire « Oups, est-ce que moi aussi dans mon cœur, dans ma vie, avec mes frères et sœurs, avec les gens autour de moi, dans ma famille, ben, j'ai donné des paroles qui ont peut-être aussi été blessantes, puis d'oser aller demander pardon, aussi déjà remettre à Dieu ça, puis de dire « Seigneur, pardon, parce que d'une fois j'ai parlé trop vite et j'ai dit quelque chose ben, qui a été blessant. » Qu'est-ce qui fait qu'on donne une mauvaise parole à quelqu'un? Ben, comme on l'a vu déjà, ben, la langue, elle est indomptable, c'est un venin mortel. Après, généralement, c'est quand même plus souvent quand on est stressé, quand on a vécu une injustice, une violence. Et généralement, on est dans la réactivité, il y a les émotions qui s'en mêlent, hein, on est moins dans le rationnel. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand on est blessé, énervé, ben, c'est là où il y a le plus de risques que tout d'un coup, nos paroles, elles parlent un peu trop vite. Et puis, on va juger, on va dire quelque chose de mauvais. Donc, on doit aussi faire attention à ces moments-là. J'en ai déjà un peu parlé. Que faire des mauvaises paroles reçues ou données? Vraiment, Dieu nous appelle à pardonner, à les reconnaître. Je dis ça un peu rapidement. Là, je ne fais pas une prédication sur le pardon. Des fois, ça peut prendre du temps de les reconnaître, de pouvoir les dire à quelqu'un. Si ce n'est pas forcément la personne qui peut entendre qu'elle nous a fait du mal, peut-être en parler à quelqu'un d'autre. Mais aussi, si nous-mêmes, on a donné des mauvaises paroles, ben, aussi être prêt à se repentir. Et prier pour que la personne, ben, Dieu, il la touche, il vienne aussi restaurer. Et j'aime beaucoup cette partie dans la prière du Notre Père qui nous dit, mais oui, pardonne-nous nos offenses. Et nos offenses, c'est aussi les paroles qu'on a dites, comme nous, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont aussi dit des paroles qui ont été aussi difficiles ou dures. Mais j'aimerais surtout m'arrêter, le plus important, c'est comment donner des bonnes paroles. Alors, je crois qu'on le sait tous, mais peut-être de manière un peu plus consciente, de manière un peu plus choisie, délibérée et volontaire, de se dire, mais comment je peux donner et continuer à donner des bonnes paroles? Et puis, Éphésiens 4, ben, je trouve que c'est très intéressant parce que dans les versets d'avant, il nous donne quelques points, quelques indices. C'est d'abord renoncer au mensonge, renoncer à tout ce qui n'est pas vrai, qui est un peu entre deux, et choisir de dire la vérité. C'est aussi remplir notre cœur de paroles qui nous nourrit, qui nous édifie, des paroles de vérité. Et on est aussi encouragé justement pour ça à chanter des hymnes, chanter des psaumes pour nourrir notre foi, notre âme. C'est aussi demander à Dieu de renouveler notre intelligence. On en a besoin aussi. Que ce soit lui, ses pensées qui viennent dans notre cœur, que ce soit ses paroles qui viennent. Et c'est aussi bénir notre prochain, les personnes qu'on voit chaque jour. Plus on va bénir, ben, quelque part c'est aussi un muscle. Plus on bénit les gens, plus on aura des paroles à donner. Plus on va lire la Bible, plus on va lire des psaumes, plus on va lire des paroles de bénédiction ou des prières que d'autres ont écrites qui nous bénissent, alors plus aussi on va développer cette force-là. Oups, je vais essayer de résumer vite fait. Là, je crois que je dépasse un peu le temps. Alors, une bonne parole, ben, je l'ai déjà dit, hein, c'est une parole pleine de bienveillance qui édifie, qui construit, qui répond à nos besoins. Puis, par exemple, il y a Philippiens 1, 9. Je continue. Et mise en pratique, j'aimerais vous proposer justement de prendre une ou deux minutes pour justement vivre ça et mettre en pratique. Peut-être faire à la maison, de se dire, de discerner chez vous si vous avez reçu des mauvaises paroles, ben, de pouvoir prendre le temps de les mettre à Dieu. Mais je vous invite à prendre juste une ou deux minutes après que j'ai fini de parler et de réfléchir, peut-être ça peut être à votre voisin, vous êtes assis, et de vous dire, ben, Seigneur, quelle bonne parole je pourrais donner à mon voisin, à ce qui est devant, derrière ou à côté de moi, et l'encourager, lui donner une parole d'édification. Parce que dans les proverbes, ben voilà, il y a aussi plein de paroles qui nous disent qu'une parole réconfortante, c'est semblable à un arbre de vie. Et je voulais laisser cette dernière prière d'Anselm Grüm, qui est un moine allemand. Dieu de bonté, ouvre mes oreilles, que je reçoive ta parole, que je l'entende avec mon cœur et que je me laisse transformer par elle. Ouvre ma bouche afin que je puisse te louer et chanter tout ce que tu as fait. Par ton Esprit Saint, rends-moi capable de redresser et d'encourager. Que mes paroles soient des paroles créatrices de relations, des paroles de guérison et de consolation, de libération et de réconciliation, des paroles capables de révéler des horizons neufs, de faire s'entrouvrir le ciel et de permettre à tous de saisir combien leur vie est précieuse et unique. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour toutes les paroles que tu nous donnes, des paroles de paix, de joie, des paroles qui nous relèvent. Et Seigneur, je te prie que tu continues à venir, Seigneur, nous utiliser pour qu'on puisse être des sources de bénédiction et pour apporter des bonnes paroles. Viens guérir nos cœurs pour toutes celles qu'on a données, Seigneur, qu'on a reçues, qui nous ont blessées. Seigneur, donne-nous aussi de marcher dans ce chemin de la repentance pour toutes celles qu'on a dites et qui ont fait du mal. Mais apprends-nous, Seigneur, à donner des paroles qui édifient, qui encouragent et qui bénissent. Seigneur, que dans cette église, il y ait toujours plus de paroles de bénédiction, qui soient partagées, qui soient dites, qui soient écrites, qui soient transmises. En ton nom, Jésus. Amen. Alors voilà, prenez juste une minute devant Dieu dans la prière, et puis, si vous avez à cœur, partagez une parole de bénédiction à votre voisin.
à travers ses larmes à Béthanie, sa prière à Gethsémané, son cri sur la croix, Jésus rejoint chacun de nous dans nos faiblesses, dans ce qui nous semble trop lourd à porter. Chantons « Relevez le faible ».
Dieu nous relève, nous qui sommes faibles, nous qui sommes bien souvent éloignés de lui, et qu'on puisse se rapprocher de lui pour être rempli par lui, et que son abondance en nous puisse déborder. Il se donne comme modèle, et que nous puissions vivre selon sa volonté, lui qui n'a pas commis de péché. Aucune parole de ruse n'est jamais sortie de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a menacé personne. Il s'en est remis à Dieu, qui juge avec justice. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps, sur la croix, afin que, mort au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Alors, c'est ce que nous voulons signifier ce que nous voulons vivre en partageant ce temps de scène maintenant.
Alors juste pour rappeler le contexte de la scène, c'était une fête religieuse. Jésus se retrouve avec ses disciples et durant ce moment traditionnel, il va donner un nouveau sens à ce repas, un nouveau sens à ces aliments qu'il partageait et un nouveau sens au salut et à notre vie avec lui. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le règne de mon Père. »
Seigneur, merci pour ce pain, ton corps que tu as donné pour nous, ton corps qui a souffert, qui a été brisé, et qui nous montre à quel point tu es proche de nous, car tu as vécu parmi nous, tu as vécu comme nous. Seigneur, merci pour ce vin, ton sang qui a coulé pour nos péchés, pour nos fautes, pour tout ce qui nous retient, nous éloigne de toi. Que tu viennes habiter ce temps de ta présence, travailler nos cœurs, nos esprits, et nos corps. Amen.
même temps, avec le même amour et la même bonté, tu as traité les pharisiens de vipères. Et ouais, c'était juste, c'était une parole qu'ils devaient entendre. Et ouais, donne-nous ton esprit pour savoir relever les autres et aussi dénoncer ce qui est faux, ce qui est injuste, avec le même amour et la même bonté. Amen.
Vous pouvez continuer à prier si vous le désirez après ce temps de scène, soit dans vos cœurs, soit à haute voix. Et puis moi, je conclurai avec une prière à haute voix. Seigneur, merci pour ce temps de scène. Merci que tu sois mort pour nous. Pour tout ce qui nous enfreint, pour tout ce qui a été négatif et que tu transformes ça en positif. Merci pour ton pardon. Merci que c'est toi qui nous relève, qui nous conduit et qui nous ramène vers toi. Merci pour la vie en toi, pour ta bienveillance et pour ta bonté envers chacun d'entre nous. Amen.
Après avoir partagé le repas du Seigneur, nous voulons chanter Dieu Sauveur.
Déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu.
Prendre place. Alors avant quelques annonces pour terminer ce culte, nous allons passer des petits sachets. Merci Aline, tu peux déjà peut-être les faire passer. Un temps d'offrande. Un temps d'offrande où vous avez l'occasion de participer différemment à la vie de l'Église, puisqu'elle ne vit que de nos dons. Mais surtout un temps d'offrande, c'est pour offrir quelque chose à Dieu, d'abord. Même si ce n'est pas particulièrement des offrandes d'argent dont Dieu se réjouit, il se réjouit surtout celle de nos cœurs, de nos êtres entiers, ben là on a cette occasion aussi. Vous pouvez donner ou pas, que ce soit prévu ou pas, d'une manière, d'une autre. Il y a Twint pour certains par exemple. Mais cette offrande elle reste volontaire et j'espère qu'elle reste joyeuse aussi entre Dieu et vous. Et alors, pendant ce temps-là, aussi, quelques petites annonces. Alors, Xavier, tu peux peut-être déjà venir là. Une première, je l'ai mentionné, Philippe est absent. Alors, je disais, même si c'est dépaysant, bah, ce n'est pas vraiment des vacances. Il est en voyage missionnaire en Thaïlande jusqu'au 20 novembre. Donc, qu'on puisse le porter aussi dans nos prières et puis porter aussi les ministères avec lesquels il travaille sur place. Dimanche prochain, ce sera Mélina Vogt, qui sera à la prédication ici, pendant que les potes, eux, ils seront de l'autre côté pour leur culte R3, le culte des potes. Donc, si vous avez des enfants, pensez à les amener à l'heure, pour qu'ils puissent aussi vivre ce culte particulier. Aujourd'hui, rappelez que, rapidement, il y a la kermesse, si jamais vous êtes sur Merin, et c'est au Forum, et encore cet après-midi. N'hésitez pas à y faire un tour, il y a plein de bonnes choses à manger et aussi de littérature. Voilà. Et puis, pour Noël, je laisse la parole.
Bonjour à tous. Alors, on a le 14 décembre, vous savez ce qui va se passer ? On a le Noël ici. Alors, on va faire un goûter festif. Ça va être assez intéressant. Je pense qu'il y aura plusieurs possibilités de venir en aide. Apporter un encas, chacun, on va préparer quelque chose, sucré ou salé, à manger à la main, ça sera important, pour qu'on ait moins de vaisselle, moins de choses comme ça à faire, et accompagné d'une boisson. Pour ce faire, on a prévu deux hôtesses à la sortie, qui auront un petit panier magnifique, et chacun pourra prendre un petit pot, qui est à l'intérieur avec toutes les instructions, pour pouvoir préparer le fameux encas à la maison, tranquillement, pour le 14. Pour le 14, on vous donnera plus d'informations, comment amener les plats, qui réceptionnera, ainsi de suite. On va vous donner tout ça en fonction des jours qui vont venir, enfin, dans les week-ends suivants. Aussi, on a une deuxième possibilité de venir en aide, et ça c'est important, parce que j'ai besoin de trois équipes. J'aurai besoin d'une équipe déjà qui va être prévu par Lionel, qui va être de débarrasser les chaises et pouvoir installer les tables ce jour-là. J'aurai une deuxième équipe qui sera pour réceptionner les plats et les apporter sur les tables. Et enfin, une troisième équipe pour débarrasser les tables, remettre les chaises et nettoyer la salle. Donc pour ces équipes-là, ça sera des équipes de 4 pour la première partie, 2 pour la partie installation des tables et 4 pour la réception des plats et la mise en place des plats. Donc si vous avez, je vous propose de venir me voir, venir voir Annick, et on prendra vos noms si vous êtes intéressé de venir nous aider pour ça. Ça va être un très bon moment, je pense qu'on va beaucoup s'amuser et ça va être très intéressant. J'ai pas d'autre chose pour l'instant à vous dire. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous venez voir Annick et on sera tous les deux à vous donner des informations plus intéressantes. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci. Je prie pour l'offrande qu'on a pu faire. Merci Seigneur pour cet argent, cette offrande que nous pouvons te faire. Que tu nous aides à te faire confiance, que tu nous aides à gérer notre argent et que tu permettes que cet argent soit utile à ton Église en nous souvenant que c'est toi qu'elle sert et que c'est toi qui es à sa tête. Amen.
J'aimerais terminer ce culte avec vous avec des mots de bénédiction qui sont tirés des Proverbes du chapitre 18. J'ai choisi deux versets qui m'ont semblé particulièrement pertinents. Et je vous invite pour ceci à vous lever, si vous le pouvez. Les paroles de l'homme, donc avec un grand H, homme, peuvent être profondes comme l'océan, vivifiantes comme un torrent, et source de sagesse. Un homme intelligent désire acquérir des connaissances, mais le sage cherche à entendre des paroles constructives. Donc avec ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne semaine. Il y a un bon café chaud qui vous attend et nous vous réjouissons de vous revoir une prochaine fois. Bon dimanche à tous, bonne kermesse si vous y allez, à bientôt. Merci.